au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes mercredi, c'est le 1er octobre. J'espère que vous avez passé une belle journée sous le soleil. À l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette, on va parler de la gestion de l'offre dans l'industrie laitière. Mathieu Lessard sera avec nous, président du syndicat du Lanaudière. On va parler de l'éducation qui était complètement absente dans le discours d'hier de François Legault. On aura avec nous aussi Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette. Il sera question d'une nouvelle salle de spectacle dans le centre-ville de Joliette. Mais pour débuter, ça c'est assez touchant et flagrant aussi. C'est un manque flagrant d'intelligence de la part d'un de nos politiciens canadiens et québécois même. C'était hier la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. On en a parlé beaucoup avec les peuples autochtones. Et le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a trouvé bon de nier carrément l'existence des pensionnats autochtones, qualifiant tout ça de grosse supercherie. Imaginez-vous, là, on est en 2025, on en a abondamment parlé, mais pour lui, c'est une supercherie. Il a même invité les Autochtones à cesser de jouer à la victime et de culpabiliser les Blancs. Et Pierre Jubainville en a discuté avec le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, Sibi Flamand. Il a aussi été appelé, Sibi Flamand, à commenter là, cette nouvelle sur le corps d'un Atikamekw qui sera redonné à sa famille 71 ans après sa mort. Il y a un tribunal qui a ordonné l'exhumation du bébé Maxime Ottawa, qui n'a jamais été remis à ses parents là, après avoir été conduit dans un hôpital de Québec en 1954. On écoute cet entretien entre Pierre Jubainville et Sibi Flamand.
Eh bien, pour ma part, je le recommande pour qu'il relie son histoire en lien avec la question autochtone, l'histoire des pensionnats, mais je pense que c'est également important qu'il puisse se pencher sur les différents rapports qui ont été déposés au cours des 30 dernières années, notamment le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, la Commission vérité et réconciliation, la quête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que l'enquête de la commission vient, celle qui a été réalisée au Québec. Je pense que ce sont des éléments à revoir pour bien comprendre la vérité puis la réalité dans laquelle nous vivons au Canada en lien avec tous les enjeux que nous voyons.
Les preuves existent bel et bien.
Effectivement, les preuves existent puis beaucoup de familles vivent encore des traumatismes à la suite de l'ensemble des traumatismes intergénérationnels que nous avons vécu en lien avec les pensionnats indiens. Puis même lorsque M. Bernier parle qu'il n'y avait pas de sépulture, ben effectivement, il y avait des sépultures comme à Kamloops puis dans d'autres provinces, à d'autres places. Il y a beaucoup de familles qui dénoncent là-dessus, là, comme quoi les enfants autochtones ont été cachés par le clergé, surtout par l'État.
Pourquoi propager de tels propos, selon vous?
C'est comme pour nier l'existence des Premières Nations, des peuples autochtones, puis alors que le 30 septembre, c'est une journée consacrée pour se remémorer de ce qui s'est passé là, à l'époque avec les pensionnaires indiens. Je pense que c'est pas intelligent de faire ce type de commentaire alors que c'est une journée importante pour les Premières Nations et les peuples autochtones dans l'ensemble.
Maintenant, je vais vous parler de cette triste histoire d'un bébé Atikamekw qui sera redonné à sa famille 71 ans après sa mort. Ça vous fait quoi d'entendre ça?
Eh bien, comme on peut comprendre, les Autochtones à l'époque, et même aujourd'hui encore, n'étaient pas considérés. Puis même les familles, les parents de cette époque-là n'ont pas été informés du décès de bébé Ottawa, bébé Maxime Ottawa. Puis aujourd'hui, les familles se sont mobilisées, ont fait des démarches pour retrouver bébé Maxime, mais aussi comprendre entendre la vérité de ce qui s'est passé avec, avec ce bébé-là.
Est-ce qu'il y a beaucoup, selon vous, d'autres cas de ce genre?
Eh bien, ce qu'on entend, c'est que l'association Awashek, l'organisme qui soutient les familles dans la recherche de vérité des enfants disparus, disent qu'il y a plus de 150 enfants, peut-être plus, qui sont recherchés. C'est genre, il y a des familles Tkamek, des familles Anishinaabe, des familles Inno, puis même Cree, qui se mobilisent là, présentement pour retrouver la vérité de ces enfants perdus. On peut entendre également le reportage qui avait été fait il y a quelques années, en 2015, lorsque les enfants... Lorsqu'une famille Inno recherchait leurs enfants, puis finalement, ils ont retrouvé les sépultures là, dans un cimetière du côté de Blassembla.
Ça ne doit pas être facile quand même comme démarche pour les gens.
Ce n'est pas facile, puis c'est par chance qu'il y a une loi qui a été adoptée quand même en 2019, en 2020, pour pouvoir faciliter justement les démarches là, pour les familles qui recherchent cette vérité-là.
Voilà, c'était Sipi Flamand, le chef du conseil des Atikameks de Manawan, avec qui Pierre Jubainville s'est entretenu un peu plus tôt aujourd'hui. Dans un moment, le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, on va parler d'une nouvelle salle de spectacle à Joliette.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver les commerces de ta région, va sur notreentourage.ca et ajoute-le à tes favoris. C'est rapide, simple, 100% local. Regarde aussi ton répertoire reçu par la poste.
Le marché public de Chersey vous invite à un marché d'automne pour son dernier de la saison, le samedi 4 octobre dès 9h30. Venez célébrer les récoltes dans la belle église de Chersey entre 9h30 et 15h. Le marché agroalimentaire vous invite à venir faire des découvertes délicieuses et réconfortantes. C'est un rendez-vous le samedi 4 octobre dès 9h30 au 543 chemin de l'église à Chersey.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Chez B7, créateur de confort, profitez dès maintenant de rabais exceptionnels sur certaines unités murales allant de 400 à 750 de réduction. Équipez votre maison d'un système performant et économique pour un confort assuré toute l'année. Et profitez de la subvention Logiver pouvant aller jusqu'à 2000. Et ce n'est pas tout. Mentionnez CFNJ lors de la prise de rendez-vous et obtenez un rabais exclusif. Appelez B7 Créateur de confort dès aujourd'hui pour profiter de cette offre limitée.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Didas, Notre-Dame-de-Lourdes, Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon.
CFNJ 99.1 88.9.
Ici, la musique américaine, on le sent à Trump.
La Naudière PM. Culturel.
Il est 16h15. Le projet de salle de spectacle qui a été baptisé Cabaret de la Fresque devrait devenir une réalité là, d'ici 2 ans au centre-ville de Joliette. On en a parlé au lendemain là, du conseil de ville, au maître d'œuvre du projet, faut dire. En fait, le centre-ville, le centre culturel des Jardins qui compte investir 10 millions de dollars. La personne qui est très importante là-dedans, évidemment, c'est le maire de Joliette, qui s'est entretenu avec François Morin. François Morin lui a parlé justement de ce sera un chef-d'œuvre même architectural, on peut le dire, en plein centre-ville de Joliette. On écoute cet entretien de François Morin et Pierre-Luc Bellerose.
Oui, ben ça s'inscrit dans notre volonté de vitaliser le centre-ville, puis on croit au niveau du conseil que ça passe par la culture, puis on veut développer ce pôle culturel-là, ce quadrilatère culturel. Déjà, nous avons le musée d'art, la maison de la musique, le centre culturel, et là, le projet du Cabaret de la Fresque, c'est quoi exactement? C'est un projet de salle de 300 places, avec d'autres petites salles aussi, ce projet-là qui va répondre à un besoin, oui, culturel, mais aussi un besoin communautaire. Donc, il y a un engagement de la part du Centre culturel Desjardins et de sa présidente, Mme Arnois, que je salue, et de M. Martin à la direction générale. Donc, ce serait essentiellement un don philanthropique de 10 millions de dollars pour la construction de ce bâtiment-là. Nous, du côté de la ville, notre engagement dans une entente là, qui laisse intervenir, ce serait notamment le don du terrain et puis une entente sur 20 ans de 300 000 non indexables qui se résume à disons une location de 50 occasions de la salle principale avec un clé en main, donc tout ce qui est technique, on a vraiment là, un clé en main. Donc c'est peu considérant là, cet investissement majeur là et puis le service aussi qui va être offert à la ville tant au niveau culturel que communautaire. Donc il faut se rappeler aussi qu'en amont nous avions déjà là, procédé à l'achat de deux terrains sur la rue Saint-Viateur. Là, on s'appelle le Saint-Bernard et un autre terrain aussi où il y avait le Dream Club. Donc, ces deux terrains-là avaient été acquis sur la rue Saint-Viateur. Donc, ça fait partie de notre stationnement sur la rue Saint-Viateur. On va être en mesure de réaménager en fonction de ce projet-là.
On vient en quelque sorte bonifier, même diversifier l'offre culturelle là, à Joliette. Donc, il y en aura de plus en plus pour tous les goûts.
Oui, puis il faut comprendre que la salle actuelle du Centre culturel est déjà là, à pleine capacité. Donc, on a une programmation qui est très étoffée. Donc, on va venir bonifier. Ça va être en complémentarité là, de l'offre déjà offerte. Donc, devant des spectacles davantage là, intimes, d'une part. Puis au niveau communautaire, ben on le sait, on a des besoins. Donc, on va venir combler, là, c'est pratiquement une fois par semaine avec la location qui est prévue à l'entente de la salle principale, parce qu'il va y avoir aussi d'autres salles là, qui vont être disponibles, qui sont peut-être plus petites, plus au niveau salle de conférence. Donc ça reste aussi à déterminer, mais c'est vraiment au niveau du développement économique, puis la création là, d'un pôle là, véritablement culturel au centre-ville de Joliette. Puis il y a d'autres projets aussi, notamment, on le sait, là, sur le site du Sterling, on a annoncé, on a entériné un projet là, de plus de 50 logements avec du commercial au rez-de-chaussée. Donc, il y a vraiment des projets là, qui émanent actuellement, puis qui émergent. Donc, on est très confiants de la suite des choses pour le développement du centre-ville avec des projets de cette envergure-là.
On comprend que le Centre culturel Desjardins dispose d'une enveloppe là, de 10 millions, mais ça pourrait être moins. Là. Évidemment, on n'est pas le processus des appels d'offres n'est pas encore lancé. Là.
C'est-à-dire que nous, l'engagement est vraiment en lien avec, disons, de leur côté. Là, on s'est engagé à au moins 10 millions de dollars. C'est ça aussi la nature de l'entente entre la ville et le Centre culturel. Donc, conditionnellement, est-ce qu'il y a une somme minimale de 10 millions pour le projet? Il y a la qualité architecturale aussi qui doit être respectée conformément au projet qui nous a été déposé là, il y a quelques mois. Donc, il y a des obligations de la part du Centre culturel pour que l'entente qui reste à intervenir soit entérinée entre la ville et puis le Centre culturel. Mais connaissant le leadership de Mme Arnois, là, je suis pas mal persuadé qu'elle va être en mesure de réunir les sommes nécessaires là, pour la concrétisation du projet. On l'a vu notamment avec la réfection du Centre culturel. Là. Ça a été mené de main de maître là, par Mme Arnois.
Selon le meilleur des scénarios, vers quel moment on pourrait assister à la première pelletée de terre?
Ben écoutez, pour l'instant, on n'a pas de date d'établi ou de date de fixation. On est confiant peut-être dans les deux prochaines années. Mais pour l'instant, il faut rester prudent. Je pense qu'on est quand même au balbutiement là, de l'entente qui reste à intervenir. Mais on a une entente de principe. Je pense que les parties sont vraiment engagées dans le dossier, dans le projet. Il y a déjà aussi des interventions qui ont été ou des démarches d'entreprise par Mme Arnois et le Centre culturel. Donc, le projet est déjà en quelque sorte commencé, mais pour l'instant, je vais demeurer prudent là, sur les dates. Là, on est tributaire là, du Centre culturel et puis là, des dons philanthropiques là, qui sont faits de ce côté-là.
En terminant, je voudrais juste revenir sur un petit projet. Ben, en fait, c'est pas un petit projet, mais un projet dont vous venez de faire mention concernant la revitalisation sur le site du Sterling. On parle encore d'un projet de mix de cohabitation et de commercial réalisé via la loi 31.
Oui. Puis, ça vient aussi, je vous dirais, c'est en adéquation là, avec nos orientations, c'est-à-dire qu'on a une obligation gouvernementale de densifier, mais on doit avoir une acceptabilité sociale. Puis, lors de nos consultations, les gens nous ont souvent exprimé le désir de voir le centre-ville se densifier. Puis, nous, de notre côté, eh bien, il y a deux principes qui nous guident, c'est d'animer le centre-ville, donc, qui est en concordance avec le projet de la FES, notamment, puis notre programmation culturelle, mais aussi de l'habiter. Donc, ce projet-là vient répondre aux besoins de la ville, tout en respectant l'acceptabilité sociale aussi des citoyens.
Voilà, c'était Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette. Ce sera à voir, bien hâte de voir ça sur la place Bourget, centre-ville de Joliette, cette nouvelle salle de spectacle nommée Cabaret de la Fresque. Il est 16h21. Ailleurs, dans l'actualité, il y a la coalition Avenir Québec là qui avait promis, il faut le rappeler, en campagne électorale, des baisses d'impôts de 2,5%. Et le ministre des Finances, Éric Girard, ne s'est pas cependant engagé là, à respecter cette promesse cet après-midi. En mêlée de presse, il était à l'Assemblée nationale. Il a simplement affirmé que la décision sera annoncée à la mise à jour économique qui va avoir lieu après le dépôt du budget fédéral, soit le 4 novembre prochain.
C'est un objectif qui a été énoncé en campagne électorale. Alors, c'est un objectif qui est toujours noble. Nous, on va faire ça de façon responsable et réfléchie. Toute décision qui pourra être prise sera communiquée à la mise à jour qui sera après le budget fédéral, qui, lui, est le 4 novembre.
Et par ailleurs, le gouvernement Legault a été critiqué de toutes parts à propos du manque de procureurs dans le système de justice. C'est vrai que c'est lent. Et ce manque de procureurs irait à l'encontre de son virage là, pour la loi et l'ordre. Le quotidien La Presse a fait état, d'ailleurs, aujourd'hui, là, d'une baisse importante de procureurs, ce qui forcerait les procureurs à faire des choix déchirants dans les dossiers qu'ils traitent. Comprenez pourquoi le système de justice l'est engorgé. Là. Et le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a assuré là, que des ressources étaient disponibles pour le directeur des poursuites criminelles et pénales. On l'écoute.
Vous comprendrez que le directeur des poursuites criminelles et pénales est indépendant. Donc, c'est pas le ministre qui gère palais de justice par palais de justice le nombre de procureurs et sur quels dossiers ils sont affectés. C'est un dossier qui est prioritaire pour moi dans l'accompagnement des victimes, dans les poursuites des infractions criminelles à l'endroit des contrevenants, à l'endroit des criminels. Et le DPCP a les ressources.
Bon, puis d'autre part, il y a le gouvernement Legault qui recule sur les plafonds d'embauche imposés dans le réseau de l'éducation. Des restrictions là, qui avaient des effets sur les services aux élèves. Le député Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire a réclamé des explications à la ministre Sonia Lebel pendant la période de questions à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui perdaient leurs orthophonistes, parce que ces orthophonistes-là partaient en congé de maternité et elles n'étaient pas remplacées. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut être claire ce matin pour ces familles-là qui méritent une réponse? Est-ce que ce plafond d'embauche demeure ou est-ce qu'il saute?
Les cibles demeureront, mais ça ne devra pas être un bloquant pour rendre des services et pour prendre des sommes qui sont disponibles dans les budgets.
On a appris aujourd'hui que le français a ajouté un niveau de complexité dans le développement de la plateforme SACLIC. On dit qu'une bonne partie du travail a été menée en Inde, selon une ancienne responsable de chez IBM. Martine Gagné, elle a poursuivi son témoignage ce matin devant la commission Galland qui enquête, il faut le rappeler, sur les déboires de la transformation technologique de la Société d'assurance automobile du Québec. Et Martine Gagné a évoqué le bassin d'employés francophones dans la province qui pouvait emmener le projet informatique de la société qui était quand même limité. C'est ce qu'elle racontait aujourd'hui. On l'écoute.
D'être obligé de traduire des spécifications français en anglais pour l'envoyer là-bas. Et puis d'avoir des traducteurs en simultané. Et c'était quelque chose, on se promenait sur le plancher, on se croyait aux Nations Unies. Il y avait tout le monde avec leur casque. Et puis, moi, je dirais qu'on n'avait peut-être pas le choix parce qu'on n'avait pas la force de frappe en français qui était nécessaire.
Et puis en terminant, il y a un homme de Lévis qui est condamné à 5 ans de prison pour avoir planifié de renverser le gouvernement haïtien. Il se nomme Gérard Nicolas. Il avait été trouvé coupable en mars dernier d'avoir quitté le Canada dans le but de faciliter une activité terroriste et puis d'avoir facilité la réalisation de telles activités en vue de concrétiser son plan. Bien, il s'est rendu en République dominicaine puis en Haïti. Il a tenté d'obtenir des armes à feu. Il a recruté rien de moins là, des gens, une troupe groupe, quoi. Il a fourni de l'argent. Il a loué un terrain pour préparer son geste. Gérard Nicolas avait été arrêté, il faut le rappeler, en 2002, au terme d'une enquête de la GRC. Il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, ouais, c'est un petit peu dense à partir de Bourget, je vous dirais, si je regarde à la hauteur de Tricentenaire, ou un certain ralentissement. On avance à peut-être 50-60 km/h et c'est ainsi jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN, là où on reprend de la vitesse, la traversée facile vers la rive nord. Repentigny, 40 est, ça se passe bien. Rappelons aussi, là, secteur Repentigny, la 341, montée de l'Épiphanie, là, c'est dense de la 40 jusqu'à... Ben, de l'autre côté de la rivière L'Assomption, carrément jusqu'au rang de l'Assomption Nord. 40 direction ouest, assez dense à l'approche de Benjamin Moreau. Pont-le-Gardeur, c'est facile, autant par Notre-Dame que par Sherbrooke, du côté de Montréal. 25 nord, passablement lourd depuis le boulevard Maurice-Duplessis à Montréal, et ce, jusqu'au boulevard des L'île. Pour la suite des choses, ça va bien pour entrer dans Terrebonne. Pont Sophie-Masson, quand même assez facile en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction ouest, ça va très bien. Direction ouest, un peu plus nombreux, là, à l'approche de la montée des Pionniers. Les nouvelles avec Pierre Jubinville dans un instant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Super Soir SNQL, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, épicerie Forêt et pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
C'est le moment idéal pour faire l'entretien de votre système chez Bessette Créateur de Confort. Obtenez 80 $ de rabais sur le nettoyage de votre unité murale ou recevez un filtre gratuit à l'achat d'un entretien de votre système central. Profitez aussi de 20% de rabais sur l'entretien de votre échangeur d'air. Ces promotions s'appliquent aux fournaises Moveair, Fujitsu ou autres systèmes. Et n'oubliez pas, mentionnez CFNJ lors de la prise de rendez-vous pour un rabais exclusif.
Bientôt, au Festival de la galette de Sarrasin de Louisville, les cousins Branchaud, Graveau-Porte, Laurent Saint-Martin, Francis de Grandpré et Éric Lapointe. Du 3 au 12 octobre, c'est le Festival de la galette de Sarrasin de Louisville. Billets au festivalsarrasin.com.
Amateurs de plein air, c'est encore le temps de profiter de la pêche journalière à l'auberge La Barrière. Jusqu'au 19 octobre, venez taquiner la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et même la golden. L'auberge La Barrière, c'est une pourvoirie 4 saisons où la nature vous attend, été comme hiver. Réservez votre journée de pêche dès maintenant au 450-884-5748 ou rendez-vous au 1000 Chemin du Club de La Barrière à Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Auberge La Barrière, l'endroit idéal pour décrocher.
C'est le grand retour de l'événement Elran chez Ameublement SG Dion. Profitez de 25% de rabais sur tous les produits Elran, fauteuils, causeuses, sectionnels. Choisissez votre confort, vos options et la grandeur idéale pour votre salon. Mais dépêchez-vous, cette offre est valide jusqu'au 4 octobre. Rendez-vous chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Joliette. Confort, style et qualité à prix réduit.
Il est 16h30, c'est le moment de retrouver Pierre Jubinville. Tout d'abord, Pierre, deux nouvelles de dernière heure.
Oui, d'abord la ministre Caroline Proulx, députée de Berthier, prend une pause de quelques semaines pour se recentrer. Elle a affirmé ne pas avoir eu le temps de traverser pleinement le deuil de sa mère. Et c'est Lionel Carman qui va s'occuper de ces dossiers.
Il faut rappeler que la ministre Caroline Proulx a changé de portefeuille. Là, elle est passée du tourisme aux aînés avec d'autres dossiers également. Là.
Oui, elle a perdu quand même la région de la Naudière aux mains de Mme Derry,
oui, voilà.
À Repentigny. Alors, et l'autre nouvelle, c'est Québec qui suspend l'étude du projet de loi 106 sur la rémunération des médecins. Ça va peut-être donner une chance à la médiation.
Pierre, un exemple flagrant de négationnisme.
Ouais, c'était hier, Claude, la Journée nationale de vérité et de réconciliation avec les peuples autochtones. Et le chef du Parti populaire du Canada, l'ineffable Maxime Bernier, a trouvé bon de nier l'existence des pensionnats, qualifiant cette histoire de supercherie. Il a même invité les Autochtones à cesser de jouer à la victime et de culpabiliser les Blancs. Le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Sibi Flamand, a demandé à M. Bernier de cesser de faire du négationnisme et de propager de fausses informations.
C'est comme pour nier l'existence des Premières Nations, des peuples autochtones, puis alors que le 30 septembre, c'est une journée consacrée pour se remémorer de ce qui s'est passé là, à l'époque avec les pensionnaires indiens. Je pense que c'est pas intelligent de faire ce type de commentaire alors que c'est une journée importante pour les Premières Nations et les peuples autochtones dans l'ensemble.
Je peux penser un peu aussi au chef du Front National à l'époque en France, Jean-Marie Le Pen, qui avait carrément nié l'Holocauste.
Et les chambres à gaz.
Mmh. On parle de cette triste histoire de bébé Maxime là, qui sera redonné à sa famille 71 ans après sa mort.
Ouais, c'est un tribunal qui a donné l'exhumation de bébé Maxime Ottawa, qui n'a jamais été rendu à ses parents après avoir été conduit dans un hôpital de Québec en 1954. Il a été mis en terre au cimetière Saint-Charles de Québec avec 13 autres personnes, des membres des Premières Nations. Selon M. Flamand, plus de 150 familles tentent de connaître la vérité.
Eh bien, comme on peut comprendre, les Autochtones à l'époque et même aujourd'hui encore n'étaient pas considérés. Puis même les familles, les parents de cette époque-là n'ont pas été informés du décès de bébé Ottawa, bébé Maxime Ottawa. Puis aujourd'hui, les familles se sont mobilisées, ont fait des démarches pour retrouver bébé Maxime, mais aussi comprendre, entendre la vérité de ce qui s'est passé avec ce bébé-là.
Maintenant, conflit chez Poste Canada Ottawa qui demande à la direction là, de tenter un rapprochement.
Oui, le ministre Joël Lightbound dit s'attendre à ce que la société fasse sa part pour régler le problème. Il a ordonné jeudi dernier, une transformation importante de Poste Canada, jugeant que la société n'est plus viable. On écoute M. Lightbound.
Je m'attends à ce que la direction fasse son travail, qu'elle revienne avec un plan sérieux pour couper le gras au niveau de la gestion, donc couper pour s'assurer qu'on ait une gestion qui soit efficace de Poste Canada. Je m'attends aussi à ce que les deux parties négocient avec bonne foi, avec sérieux. Les Canadiens veulent un service de qualité de la part de Poste Canada, mais veulent que ça se fasse à un coût qui est raisonnable.
Une autre église qui ferme ses portes dans la région, cette fois, c'est l'église de Saint-Didas.
Oui, la dernière cérémonie a eu lieu dimanche. L'église a été érigée en 1863 pour remplacer une chapelle qui était devenue trop petite. Comme à d'autres endroits, les coûts d'entretien et la faible fréquentation expliquent sans doute la décision. Le conseil municipal a quand même entrepris des démarches pour la sauvegarder du pic des démolisseurs.
Et un rare violon Stradivarius pourrait bientôt être mis en vente.
Oui, dans un avis public du ministère de la Culture et des Communications, on apprend que le violon Stradivarius d'Angèle Dubot, instrument classé bien patrimonial, fait l'objet d'une demande de déclassement. Cette procédure permettra au propriétaire du bien d'en disposer à sa guise, soit de le vendre ou de le céder. On écoute Michel Arnois.
Le violon et son archet ont été classés le 2 septembre 2018. Selon l'avis public, le ministre Mathieu Lacombe statue que ces objets ne présentent plus un intérêt public justifiant le maintien de leur statut juridique. Le violon Le Desrosiers a été l'un des derniers Stradivarius du maître luthier à être fabriqué en 1733. Sa valeur est estimée entre 12 et 18 millions de dollars. L'archet, connu sous le nom d'archet François Tourte, aussi propriété de la native de Saint-Norbert, vaut quant à lui entre 25 000 $ et 750 000 $ selon son état. Toute personne peut faire des représentations au Conseil du patrimoine culturel du Québec, qui lui formulera un avis sur l'opportunité de procéder au déclassement. Nous sommes dans l'attente d'un retour de l'entourage d'Angèle Dubois. Michel Arnois, CFNJ Nouvelles.
Tu penses, hein, 750 000 $ seulement pour l'archet.
Oui, juste l'archet. Très intéressante nouvelle.
Merci Pierre Jubinville. Il est 16h36.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est l'Anaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.
Oui, on va parler éducation maintenant. Une grande absente dans le discours d'hier du premier ministre François Legault. On n'a pas parlé du tout d'éducation. Et Mathieu Lessard, le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, n'est pas vraiment surpris. Et Pierre Jubinville a eu l'occasion de lui parler là, un peu plus tôt aujourd'hui.
Je veux dire que on n'est pas surpris dans la mesure où, au moment du remaniement ministériel, le premier ministre s'était déjà placé. Et forcément, si on fait la suite logique de l'ensemble des projets de loi qui sont venus attaquer de plein front le personnel enseignant, l'école publique, les services publics au sens large, ben, faut comprendre que le gouvernement de la coalition avec Québec a décidé d'abdiquer au regard de la qualité des services pour s'en tenir à une rigueur budgétaire puis un discours beaucoup plus à droite. Là. Donc, je vais être déçu. Effectivement, parce que l'éducation, c'est la planche de salut de la société de demain. Mais pas surpris, malheureusement.
Ce n'est pas seulement un oubli de la part du gouvernement. Je pense que l'éducation n'occupe peut-être plus la place prépondérante qu'elle a toujours occupée.
On est à peu près au même endroit où, avant l'élection de la coalition Avenir Québec, c'est-à-dire que l'éducation faisait partie d'un poste de dépense. Et on se rappellera que c'était un des postes qui était directement attaqué à l'époque du gouvernement libéral, notamment de Philippe Couillard. Ce faisant, ben, on revient encore dans le même discours. Il s'agit d'une dépense. On doit faire plus avec moins, alors que le nombre d'élèves grandit, le nombre d'élèves avec des besoins particuliers est en nette augmentation. Ben, ce faisant, effectivement, c'est pas sexy parler de dépenses alors qu'on devrait plutôt parler de l'avenir du Québec, mais il y a plein d'autres éléments qui sont assimilables et qui passent sous la trappe, comme le discours environnemental. Là, on est dans la même veine. Là. Tout ce qui nous amène à penser à la génération de demain n'a pas de priorité à l'heure actuelle pour le gouvernement de la coalition Avenir Québec.
Et quels sont plutôt les chantiers qui vous semblent urgents à régler au cours de la prochaine année?
Ben, minimalement, là, faut se sortir, pour reprendre la phrase et l'image de M. Legault, faut se sortir de la camisole de force qu'impose le gouvernement aux services publics, puis notamment à l'école publique. Dans la loi, il est inscrit que tous les élèves doivent bénéficier des services auxquels ils ont droit. Alors qu'avec les coupures annoncées de 570 millions, malgré le risque potentiel d'un réinvestissement de 540, là, fait qu'on s'entend qu'au total, il y a encore une perte. Mais malgré tout ça, c'est de s'assurer qu'on puisse respecter les besoins des élèves et soutenir le personnel, parce que la pénurie ou la rareté, si vous préférez, elle ne se terminera pas. Bien au contraire, elle risque même potentiellement de s'accentuer si on n'envoie pas un signal clair comme quoi l'éducation est une priorité, et pas uniquement le mot, mais également les gens qui font l'école au quotidien.
Sonia Lebel a annoncé aujourd'hui qu'elle retirait les plafonds d'embauche imposés par Bernard Drainville. C'est une bonne nouvelle?
On va être prudent, parce que comme lors du réinvestissement supposé de 540 millions au départ, ça devait être miraculeux, puis lorsqu'on lit les petits caractères en bas de page du contrat, ben il y avait énormément de contraintes qui rendaient pratiquement impossible l'accès à ces sommes supplémentaires-là. Donc, on va demeurer prudent jusqu'au moment où on aura l'officialisation de la possibilité d'exploser, hein, de faire sauter cette limite-là d'équivalent temps complet. Parce qu'actuellement, là, il y a plusieurs élèves qui n'ont pas accès à leur service, du personnel qui ne peuvent même pas accéder à des dispositions qui ont été négociées dans le cadre des conventions collectives pour les soutenir eux, mais également soutenir les élèves. On pèle par en avant, on ne remplace pas du personnel absent. tout ça sous le prétexte des coupures, puis comme quoi on doit faire différemment. Donc, la journée où on aura bel et bien un appel, là, on pourra se reparler, puis là, je pourrais vous dire, oui, effectivement, on va vers la bonne direction. Maintenant, reste à voir, là, ça sera quoi la nouvelle limite? Parce que forcément, le Conseil du Trésor va venir imposer une limite à l'éducation, parce que c'est pas vrai qu'on va répondre tout d'un coup aux doléances du milieu. Là. Je veux dire, le gouvernement, lui, voudra pas donner l'impression qu'il perd la face.
Que pensez-vous, enfin, de la sortie contre les syndicats et la transparence?
Bien, la journée où le gouvernement se donnera autant de rigueur et aura l'obligation d'être tout autant transparent à l'égard des citoyens et des citoyennes du Québec, ben, je vais être obligé d'applaudir. Mais ce qui est intéressant, c'est la méconnaissance du mouvement syndical et surtout le fait de diaboliser les syndicats. Les syndicats, c'est issu des travailleurs et des travailleuses. Moi, je ne suis que leur voix. Donc, ce faisant, on est une institution démocratique, vivante, qui fonctionne à partir justement de ses commettants. Puis les commettants, ben, c'est l'entièreté des membres qui ont à se prononcer sur divers enjeux. Et ben, le gouvernement, n'aimant pas les contre-pouvoirs, prenant même modèle sur le discours dans plusieurs États autour de la planète actuellement où on veut faire table rase des contre-pouvoirs, ben, décide de s'entêter à avoir raison. Ce faisant, ben là, on verra bien ce qui va advenir. Mais je l'invite à venir nous voir. J'invite n'importe quel député de la Coalition Avenir Québec à venir nous voir, à venir nous rencontrer, à assister à nos instances pour voir à quel point tout est sur la table et tous les mandats proviennent des membres. Il n'y a rien de pipé d'avance, bien au contraire.
Bon, ben voilà, c'était Mathieu Lessard, le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Il est 16h42. Dans les prochaines minutes, on va retrouver Pierre Paquette. Il sera question de gestion de l'offre dans l'industrie laitière.
À Télé-Québec, le mercredi 20h, une époque formidable, animée par Stéphane Bureau.
On est nul à chier en Amérique du Nord avec les émotions.
Déjà, je sens que ça vous parle.
S'exprimer.
Je trouve que notre époque, elle est inculte, elle est illettrée, elle ne s'intéresse qu'à elle-même.
Questionner.
Il y a quelqu'un qui lève la main.
Je suis d'accord avec un argument de mon adversaire politique.
Échanger.
Wow! Ça doit faire 20 minutes que j'ai envie d'intervenir puis de sauter dans l'arène.
Aller au-delà des préjugés avec une époque formidable. Mercredi 20h à Télé-Québec.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Retrouvez le plaisir de manger grâce aux implants dentaires. La pose d'implant permet la stimulation de l'os visant à conserver sa densité osseuse en plus de servir d'ancrage à votre prothèse. Qu'elle soit partielle ou complète, la prothèse sur implant permet de retrouver une force masticatoire considérable en plus de vous redonner une stabilité. Rien à voir avec une prothèse conventionnelle. Du même coup, ces bénéfices vous redonneront la confiance de sourire.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Au concert du dimanche à CFNJ, France Gall. Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Eh bien, on va parler de la question de la gestion de l'offre qui revient à l'avant-scène après l'apparition là, d'un article dans le Globe and Mail ce matin qui cite des sources anonymes selon lesquelles Ottawa étudierait la possibilité d'offrir un meilleur accès aux produits laitiers américains dans le marché canadien. Oh, que ça risque pas de faire l'affaire des producteurs de lait là, ici au Québec particulièrement, là.
Non, ça c'est sûr. Bon, la gestion de l'offre, ça a toujours été dans la mire des Américains. Mais là, comme la négociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique
va reprendre dans quelques mois, c'est sûr que les pressions vont revenir. Alors, il faut surtout pas que le gouvernement canadien donne l'impression qu'il est prêt à céder quelque chose là-dessus. D'autant plus qu'on a cédé quand même des parts de marché avec dans la négociation avec les Européens il y a quelques années. Alors, ça va être un dossier à suivre. Là. Malgré les démentis de Dominique Leblanc, je pense qu'il faut que les producteurs laitiers, comme d'ailleurs tous les producteurs qui sont sous la gestion de l'offre, il n'y a pas juste le lait, il y a les œufs, il y a la volaille, doivent être très mobilisés pour suivre les négociations. Alors moi, j'ai déjà vécu ça il y a 20 ans. Lorsque j'étais porte-parole au commerce international pour le Bloc québécois, il y avait eu une assemblée générale de l'OMC à Hong Kong, et la gestion de l'offre était, pas simplement la gestion de l'offre, mais était menacée par une résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du commerce. Et l'Organisation mondiale du commerce, ça fonctionne à l'unanimité. Alors, il suffit qu'une délégation dise qu'elle s'oppose, puis la résolution est battue. Et lorsqu'est arrivé le vote sur la résolution, c'était en décembre 2005, juste avant l'élection des conservateurs, donc c'est les libéraux qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Le président de l'Assemblée a dit « Est-ce que quelqu'un s'objecte à la proposition ?» Puis la délégation canadienne avait été la seule à se lever pour protéger, évidemment, dans cette résolution-là, les attaques qu'il y avait contre la gestion de l'offre. C'est pas facile, mais ça se fait. On voit 20 ans plus tard, on a encore, malgré le fait qu'il y a eu des reculs dans la négociation avec les Européens, mais qui sont quand même pas décisifs, là, fatals, il y a moyen de conserver ce modèle-là qui est extrêmement... reste un modèle qui est parfait pour un pays ou un espace économique comme le Canada ou le Québec, là, parce que il y a certaines conditions qui doivent être remplies, et puis ça nous assure une stabilité des prix, des revenus accessibles adéquats pour les producteurs, et pour les fournisseurs, ben ils reçoivent les fournitures qu'ils ont besoin, ils sont garantis à cet égard-là. Alors, c'est un modèle qui est, même s'il est très critiqué à travers le monde, c'est un modèle qui a fait ses preuves.
Ce que ça voudrait dire, tout ça, Pierre, c'est que on pourrait retrouver des cartons de lait de producteurs américains directement sur les tablettes de nos épiceries, là.
C'est ça qu'ils veulent. Actuellement, il y a de l'importation de produits laitiers américains.
Oui, mais ils doivent être transformés.
Oui, oui, ils doivent être transformés, puis ils doivent être vendus à des distributeurs canadiens qui ont des quotas eux-mêmes. Alors, on doit en trouver dans notre lait, là. Je connais pas les détails de ça, mais c'est sûr qu'on en retrouve dans notre crème glacée. On en retrouve un peu partout. Eux, ce qu'ils voudraient, les Américains, c'est pouvoir directement vendre à des distributeurs comme Metro ou Loblaw, pour que le lait américain se retrouve directement sur les tablettes. Pour le moment, c'est pas permis parce que, encore une fois, on a des quotas, il faut les respecter. S'il y a des quotas qui sont concurrencés par des importations, ça veut dire que le système de quotas va disparaître parce que là, tu n'auras pas de garantie que si tu respectes ton quota, tu n'auras pas nécessairement accès au marché de la même façon, tu n'auras pas les prix auxquels tu t'attends. Donc, il faut nécessairement, dans le système de la gestion de l'offre, que les importations soient contrôlées. Et actuellement, elles sont contrôlées. On en laisse rentrer, là. C'est pas vrai que...
Et nos productions, oui, mais nos productions aussi, il faut le mentionner, Pierre. Nos productions sont plafonnées, c'est-à-dire que...
Oui, puis le point important là, que tu signales avec ça, c'est que nous, on concurrence personne à l'échelle internationale. Mm-hmm. Le lait canadien, il se retrouve pas aux États-Unis, il se retrouve pas en Australie, il se retrouve pas en Europe. Il reste au Canada pour répondre aux besoins des Canadiens et des entreprises canadiennes. Donc, si nous, on accepte ça, il faut évidemment que les autres suivent les règles qui sont établies par la gestion de l'offre. Il y a des producteurs qui ont refusé la gestion de l'offre. Les producteurs de porc, par exemple, préfèrent, eux, miser sur les exportations, puis ils réussissent très bien parce que leur production le permet. Pour le lait, ben c'est sûr que d'avoir des fermes à dimension humaine, ça serait plus possible avec la disparition de la gestion de l'offre. On aurait des méga fermes, comme c'est le cas aux États-Unis. C'est pas le modèle qu'on a choisi. Puis espérons que le gouvernement québécois puis le gouvernement canadien vont être capables de se lever pour le protéger.
Surtout dans la situation actuelle où on encourage la consommation de produits canadiens à cause, évidemment, on le sait très bien, des barrières tarifaires de Donald Trump. je me retrouverais dans une situation où j'aurais le choix à l'épicerie entre une pinte de lait qui est bon, par exemple, ou encore un lait américain. Le choix est facile à faire, là.
Oui. Pour le moment, c'est pas. Mais ça aurait une pression, ça créerait une pression à la baisse sur les prix parce que.
C'est ça le problème.
Une offre qui dépasserait celle qui est prévue dans le cadre de la gestion de l'offre, parce que, encore une fois, la gestion de l'offre, c'est on prévoit les besoins aussi bien des consommateurs que des producteurs. On va adapter la production en fonction de ces besoins-là, puis on partage des quotas entre les producteurs laitiers, par exemple. Mais à partir du moment où est-ce qu'il y a des importations qui ne font pas partie de ces quotas-là, ben tout le système va éclater. Et c'est ça que les producteurs ne veulent pas, avec raison. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les producteurs américains ou les Américains voudraient que les entreprises de distribution canadiennes, encore une fois, là, les grandes chaînes d'épicerie, puissent acheter directement des producteurs américains des produits laitiers qui mettraient directement sur leurs étagères. Et là, ça serait une brèche qui serait très importante. Moi, c'est plus de ce côté-là que j'ai peur, là, que le gouvernement canadien accepte. Encore une fois, pour essayer d'amadouer M. Trump, j'ai beaucoup, beaucoup de scepticisme à cet égard-là.
Et j'ai l'impression que le gouvernement Carney là, est vraiment un lèche-botte de Trump ces temps-ci, là, pour pas dire autre chose. Là.
Ouais, c'est un tapis un peu. Mais en tout cas, on n'a pas de preuves jusqu'à preuve du contraire. Là, on n'a pas, on sent pas la détermination du côté du gouvernement fédéral. Encore, même si Dominique Leblanc a dit qu'il n'en était pas question, moi, j'invite en tout cas les producteurs laitiers en particulier à rester extrêmement vigilants.
Merci Pierre Paquette. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Pierre Jubinville, François Morin ainsi que Pierre Paquette que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel, passez une excellente soirée. Manquez pas dans un moment le 5 à 7 trad avec Justin Lapierre aujourd'hui. La Naudière, la vie dans la Naudière, oui, dans un instant avec Hugo Valiquette.